Joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
L'image est à l'envers.
Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours.
Ah, je me suis perdu là, excusez-moi.
Retournement de l'image.
C'est, nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout.
La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte.
Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée ce matin par Jean-Marc Galland et Hélène Frouard. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on va parler d'histoire du nucléaire en France avec notre invité. On a le plaisir de recevoir Louis Fagon. Bonjour Louis Fagon, bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Alors Louis Fagon, vous êtes historien, vous êtes actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche à Nanterre et vous venez de soutenir à l'École des hautes études en sciences sociales une thèse intitulée « Le Rhône des années 50 à la fin des années 90 ». Et votre thèse commence par une phrase toute simple « Pourquoi y a-t-il autant de centrales nucléaires le long du Rhône ?» Et de cette question apparemment naïve, vous tirez une histoire assez approfondie de la politique nucléaire française que vous avez décortiquée avec beaucoup de finesse et on le verra avec un art remarquable pour aller chercher les archives là où on peut les voir. Pour commencer l'émission, j'aimerais vous faire entendre cet extrait d'un journal télévisé de mars 1974.
Quant au but visé par les pouvoirs publics en fonçant dans l'ère nucléaire, il est le suivant. En 1980, le nucléaire doit couvrir 23% de la demande électrique, en 85, 50%, à la fin du siècle, près de 90%. Dans l'état actuel de la société industrielle et de ses techniques, il n'y avait apparemment pas d'autre choix que le nucléaire, faute de quoi la machine industrielle se casserait. On compte aussi sur la technique des surrégénérateurs qui, théoriquement, résoudrait tout problème de rendement et d'approvisionnement.
Alors c'est quoi ce plan ? Il se passe quoi en 1974 ? Est-ce que c'est le moment où se lance la grande politique nucléaire française ?
Alors oui, tout à fait. Alors c'est à la fois un lancement, mais c'est aussi une accélération, finalement. L'annonce fait suite au choc pétrolier de 1973, notamment déclenché par la guerre du Kippour. Et l'idée donc est d'accélérer la construction de centrales nucléaires en France, avec un plan qui est déjà en fait préparé en partie par EDF et par les autorités depuis quelques années, mais qui va donc prévoir la construction de plusieurs dizaines de réacteurs en France de manière systématique pour augmenter la part de production d'électricité d'origine nucléaire en France.
Donc cet extrait, on voit, ça présente le nucléaire comme une évidence, comme la seule solution. C'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux depuis combien de temps ?
Alors ça c'est aussi un discours assez fréquent justement d'une sorte de nécessité du nucléaire en 1974. En réalité, le nucléaire est déjà développé par EDF dès le début des années 50. EDF est donc le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, enfin je pense qu'on reviendra sur sa définition. Mais en fait le projet, le nucléaire à l'époque est une possibilité, est une option de production d'électricité et d'énergie. Mais il est une option parmi d'autres. On produit encore beaucoup à base de charbon, à base de centrales au fioul. Et 1974, en fait, est une manière d'accélérer ce mouvement, cette nucléarisation, on va dire, du mix énergétique français, qui, de fait, est prévue, par exemple, pour le cas du Rhône, sur lequel j'ai travaillé. L'anticipation du programme est déjà visible dès les années 60. On cherche déjà des sites pour de potentielles centrales nucléaires, en attendant la rentabilité. C'est surtout cette question de rentabilité qui est importante pour le programme.
Est-ce que c'est une particularité française de se tourner comme ça vers le nucléaire ou c'est un mouvement un peu plus général ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la France a une place particulière en matière de production nucléaire, est un très gros producteur nucléaire par rapport au pays. Donc, est-ce que c'est déjà une particularité ou non ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que le programme massif est vraiment massif en France. C'est-à-dire qu'on prévoit, justement, donc, comme il est mentionné dans l'extrait qu'on a entendu, on prévoit différents types de réacteurs. On prévoit des réacteurs, ceux qu'on a aujourd'hui, donc PWR, mais également des réacteurs, des surgénérateurs, qui sont mentionnés également, donc des réacteurs de technologies différentes de ceux qui sont installés aujourd'hui. Et Par exemple, on voit la même accélération en Allemagne à cette époque-là, même si, on le sait, aujourd'hui, l'Allemagne est beaucoup moins nucléarisée que la France, malgré cette décision, donc de cette réaction de 1974.
Donc vous voulez dire que dans les années 70, il y a un mouvement général dans plusieurs pays pour enclencher de façon massive une production de réacteurs nucléaires?
Oui, tous les pays. Le débat en fait arrive parmi tous les pays touchés par le choc pétrolier et par l'explosion des prix du pétrole. Et l'idée vraiment de substituer ce qui est substituable par le nucléaire et par l'électricité d'origine nucléaire.
D'accord. Et donc, dernière question sur ces origines du nucléaire. Quel est le lien entre le nucléaire civil et militaire en France?
Alors, pour ce lien, il faut remonter un petit peu avant le programme Messmer, le plan Messmer de 1974. En France, la politique nucléaire, en fait, commence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec la création du commissaire à l'énergie atomique en 1945. Et le premier plan quinquennal vraiment de l'énergie, c'est 1952, pour le plan quinquennal d'énergie atomique, qui est voté en 1952, et qui entend à l'origine produire du plutonium. Et l'idée, donc, on est sous la 4ème République, avec une très forte instabilité ministérielle. Et l'idée donc est de produire du plutonium au sein du CEA, avec l'idée de voter et de décider politiquement plus tard l'usage qu'on fera de ce plutonium. Donc le plutonium est d'abord produit notamment sur les bords du Rhône, à Marcoule.
Excusez-moi, je vous interromps, c'est un plutonium destiné à un usage militaire à ce moment-là?
Alors, pour cet usage, en fait, on peut à la fois s'en servir pour le militaire, mais on peut aussi l'utiliser notamment dans des surgénérateurs qui sont cités justement dans l'extrait. Donc c'est un type de réacteur qui fonctionne avec du plutonium. Ce plutonium, en fait, pourrait servir soit à la production d'électricité d'origine nucléaire, soit à fabriquer potentiellement une bombe atomique.
Juste, peut-être qu'on a besoin d'un peu de vulgarisation, contrairement à d'autres réacteurs qui, eux, fonctionnent à l'uranium, c'est ça?
Tout à fait, oui. Et après, il y a énormément de types de réacteurs différents. Dans les années 50, au moment du dévoilement public en fait des différents types de réacteurs lors des conférences internationales, on peut en compter plus d'une centaine. Parce qu'en fait, selon tous les éléments qu'on assemble, selon la taille, selon la manière de ralentir ou non la réaction en chaîne, on obtient énormément de types de réacteurs différents.
Donc on est encore dans une phase de tâtonnement, si j'ose dire, d'un point de vue de modèle de centrale.
Alors, tout à fait. La France a fait le choix d'un premier modèle de réacteur qui fonctionnait à l'uranium naturel. Il n'y a pas besoin d'enrichir l'uranium comme on le fait aujourd'hui. Donc, ça coûte moins cher, ça nécessite aussi moins de moyens techniques. Et ce fonctionnement donc avait lieu dans des réacteurs qu'on appelait UNGG, qui ne sont pas les réacteurs qu'on a aujourd'hui. Cette filière, en fait, originelle utilisée en France, a été abandonnée justement avant le plan Messmer, en 1969.
D'accord, donc on voit donc cette filière qui est en train de se mettre en place, et donc la question c'est, pourquoi le choix du Rhône?
Alors oui, c'est justement la question que je pose en introduction de ma thèse, c'est pourquoi finalement le Rhône accueille autant de centrales nucléaires, ce qui semble une évidence technique quand on répond simplement à la question, c'est-à-dire il y a de l'eau pour refroidir les réacteurs, puisque c'est le premier enjeu, pour des raisons de fonctionnement, mais surtout de sûreté. Il faut de très grandes quantités d'eau froide pour refroidir sans cesse les réacteurs en fonctionnement. Un réacteur actuel, à peu près, a besoin de 30 mètres cubes d'eau par seconde quand il fonctionne en circuit ouvert, donc en circuit refroidi directement par le fleuve. Et donc la réponse simple, la réponse technique apportée à cette question, c'est tout simplement que le Rhône a un très fort débit. Et aussi des sites qui sont assez solides pour s'implanter le long du fleuve avec assez d'espace. Mais pour un historien, c'est uniquement une réponse technique, donc ça ne répond pas à la question de pourquoi finalement telle centrale est à cet endroit.
D'accord, on va y venir après, mais ma deuxième question sur le Rhône, c'est est-ce que le Rhône avait pu avoir un autre usage, notamment hydroélectrique? Et est-ce qu'il y a une concurrence des usages? Mais peut-être qu'on reparlera plus en détail ensuite, mais juste au début dans le choix du Rhône de façon globale.
Oui, tout à fait. Alors le Rhône en plus est très spécifique en France. Puisque j'ai parlé du CEA en 1945, donc ce commissariat qui a le monopole du nucléaire en France à partir de 1945, EDF est fondé en 1946 et rassemble des milliers d'entreprises de production d'électricité qui préexistaient avant la guerre, sauf quelques exceptions dont la Compagnie Nationale du Rhône, la CNR, qui donc est une compagnie de l'entre-deux-guerres qui est justement à la charge des barrages hydroélectriques le long du fleuve, et qui est déjà présente le long du Rhône, ce qui va poser d'ailleurs des problèmes de concurrence, justement, d'usage avec EDF.
Juste, donc, il y a eu une réponse technique à pourquoi le Rhône, on a de l'eau froide en masse qui passe. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives au Rhône à cette époque qui ont été étudiées?
Alors oui, alors moi, dans ma thèse, je me concentre sur le Rhône, justement, en tant qu'objet, parce que c'est aussi pratique pour la narration historique, d'avoir un fleuve comme ça à décrire. Après, les premières installations nucléaires, en fait, sont assez petites à la fin des années 40 et début 50. Elles sont plutôt en région parisienne. Et à cette époque, en fait, la Loire est plus précocement nucléarisée que le Rhône, notamment par EDF. Les premières centrales EDF de production vraiment d'électricité uniquement pour EDF sont implantées en fait sur la Loire, Chinon et Saint-Laurent-des-Eaux. Mais le Rhône ensuite suit à partir des années 60.
Est-ce qu'on aurait pu imaginer techniquement que ce soit la Loire le principal fleuve nucléarisé de France ou pas?
Alors, de fait, aujourd'hui, le nombre de réacteurs est identique sur les deux fleuves. Et la Loire est très fortement nucléarisée, avec de très grosses centrales, notamment encore Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux, etc. Mais le Rhône a un débit plus important. Et le régime aussi hydrologique est aussi intéressant pour EDF à cette époque-là, puisque en fait le Rhône, on en reparlera certainement, il y a des questions de réchauffement, mais le Rhône est finalement plus bas en hiver qu'en été, grâce à son régime en fait niveau nival. Donc en fait c'est quelque chose d'important, c'est une capacité de refroidissement intéressante.
D'accord. Alors ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre recherche, c'est que vous n'en êtes pas resté à une histoire du nucléaire par le haut, par l'État, par les grandes décisions, mais vous êtes allé voir sur le terrain très pragmatiquement comment se passaient les implantations. Et vous montrez que choisir le Rhône, c'est une chose, mais ensuite choisir l'implantation de chaque centrale, c'est toute une négociation locale beaucoup plus compliquée et beaucoup plus bricolée qu'on ne pourrait penser quand on ne connaît pas cette histoire. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment se choisissent ces sites et quel type de négociations ont lieu autour du choix de ces sites?
Alors c'est une assez longue négociation, on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs avec les choix de sites nucléaires aujourd'hui. Il faut à peu près une dizaine d'années pour construire un réacteur nucléaire, en commençant par les premières autorisations jusqu'à vraiment la période d'essai. Le calendrier est en fait administratif aussi, et justement l'intérêt c'était de voir la prospection, de décaler en fait l'histoire du programme nucléaire quelques années auparavant. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le plan Messmer en fait est une accélération, puisque le plan clé en main présenté au gouvernement en 1974 et appliqué en fait est déjà préparé, puisqu'il faut avoir déjà prospecté les sites, il faut rechercher des sols qui soient assez solides pour des installations qui sont extrêmement massives, du fait des sécurités aussi multiples. Il faut aussi la proximité du fleuve, mais pas trop, puisqu'il y a aussi des risques d'inondation. Il y a eu une très bonne thèse dernièrement d'un collègue sur ce risque d'inondation, Mickaël Mangeon, pour les centrales nucléaires. Il y a également le problème de la proximité ou non avec les villes et les populations. Alors, ce qui est un débat assez intéressant, parce que c'est plutôt un argument de circonstance. C'est-à-dire qu'on voit dans les années 60 que la proximité du Bugey avec Lyon est présentée comme un argument. Parce que justement, c'est proche de Lyon, donc proche de l'industrie lyonnaise. Alors que, par la suite, dans les années 70, on présente plutôt des sites complètement isolés comme une sécurité supplémentaire pour les éloigner des populations. Donc en fait, la position française n'est pas très claire à cette époque-là. Elle est un petit peu de circonstance pour EDF. Et ça provoque des débats internationaux assez intéressants.
Est-ce que le risque sismique fait aussi partie des choses qui sont considérées?
Oui, tout à fait. Il y a eu aussi une... En fait, je m'inscris dans une suite de thèses qui, justement, s'intéressent de plus en plus aux centrales nucléaires dans leur lien avec leur environnement. Il y a une thèse dernièrement également sur le risque sismique qui est un vrai problème parce que par exemple la question se pose au niveau du Rhin qui est donc en Alsace. Les centrales alsaciennes sont dans une zone qui est davantage soumise au risque sismique que le Rhône. Mais en fait, vous avez des dossiers qui sont de plus en plus imposants, importants, du fait de la réglementation dans les années 70, qui font un état des lieux, un état zéro de l'environnement dans lequel ensuite on va placer la centrale pour établir en fait tous les risques avec plus ou moins de précision, puisque c'est ce que j'ai assez, ce que j'ai vu assez souvent, c'est que ces dossiers sont en fait assez stéréotypés et très largement décriés par les autorités locales qui les étudient précisément.
Alors justement, si on en vient aux autorités locales, vous nous décrivez ce fleuve qui est intéressant d'un point de vue technique, vous nous décrivez des choix de sites qui pourraient accueillir des centrales. Est-ce qu'il y a une évidence, je ne sais pas, on trouve 7 sites, on fait 7 centrales, ou est-ce qu'ensuite il y a des négociations locales avec certains lieux qui vont refuser des centrales, donc qui vont les demander? Est-ce que ça va jouer? Est-ce que le choix local va influer la localisation des sites des centrales?
Alors oui, tout à fait, et c'est une question à laquelle j'apporte une réponse, mais je pense qu'elle est toujours ouverte. C'est très difficile de savoir finalement pourquoi, quels sont tous les critères qui ont joué pour expliquer qu'une centrale soit à cet endroit. Il existe des villes qui ont demandé à avoir leur centrale nucléaire. Romans-sur-Isère, par exemple, à un moment, les services municipaux ont sondé les services d'EDF pour avoir peut-être une centrale nucléaire. Sauf que l'Isère n'avait pas les capacités de refroidissement pour un réacteur important, donc il fallait faire un petit réacteur, ce qui n'avait pas beaucoup d'intérêt économiquement. On voit aussi des refus. Alors, en fait, en 1974, il y a eu des votes qui ont été organisés de manière autonome au niveau local. Il y a eu aussi des pétitions, des mouvements antinucléaires assez forts. Et certains projets ont, par exemple, été envisagés assez longtemps, mais abandonné pour des raisons techniques. Par exemple, la centrale de Martigues, EDF avait prévu pendant très longtemps une centrale sur la mer, sur la Méditerranée. D'autres centrales étaient plutôt hypothétiques, étaient plutôt des projets laissés à certains responsables EDF en interne comme lot de consolation. C'est par exemple, on a le cas de surgénérateurs, par exemple à côté d'Avignon, au nord d'Avignon, et en face d'Orange, également le long de la Saône aussi, il y avait un projet abandonné mais qui a été combattu pendant plusieurs années, notamment par les viticulteurs. Parce que ça, c'est un autre enjeu de la localisation le long du fleuve, c'est que comme on dit en viticulture, la vigne doit avoir le fleuve, mais comme la centrale doit avoir le fleuve également, ça pose des gros problèmes de conflits d'usage.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc nous sommes avec Louis Fagon pour parler de l'histoire du nucléaire en France à partir de sa thèse sur la nucléarisation du Rhône. Donc vous nous racontiez comment le choix des sites se fait de façon complexe, des arbitrages plus complexes qu'on ne peut imaginer. C'est pas juste une décision prise en haut lieu comme ça arbitrairement, il faut prendre en compte le territoire, il faut prendre en compte un certain nombre de contraintes. Et ce que vous montrez aussi, ce que je trouve très intéressant dans votre thèse, c'est qu'on a aussi un bricolage au niveau des normes, c'est-à-dire qu'on n'avance pas avec un projet tout fait, complètement construit, parfaitement rodé, mais on bricole en avançant, on invente en avançant, dans la construction, dans la conception des réacteurs.
Alors oui, ça c'est surtout très visible au tout début en fait de la période que j'étudie, c'est-à-dire les années 50, puisque dans les années 50, en fait, le seul acteur nucléaire présent le long du fleuve, c'est le CEA, qui est une entité un petit peu à part dans le fonctionnement de l'État et qui justement n'est pas un producteur d'électricité, ce n'est pas non plus une entreprise, c'est pas non plus une administration, c'est un peu tout ça. Et ce sont aussi donc des scientifiques qui doivent à la fois travailler dans l'urgence pour produire le plus rapidement possible, selon les demandes, le plutonium prévu par le plan quinquennal, avec très peu de moyens au départ. Il y a des augmentations de budget régulières, mais au départ, ils se plaignent souvent d'avoir une sorte de d'urgence permanente et de besoin de financement permanent. Et surtout, en fait, on a une énergie qui se développe avec une technologie qui est très récente, des normes internationales qui ne sont pas fixées, en fait, à l'époque, qui sont parfois même fixées après la mise en fonctionnement des premiers réacteurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est surpris quand on regarde le fonctionnement concret des sites, par exemple, en 1955-56, on se rend compte à quel point c'est une industrie, comme toutes les autres, avec une part d'improvisation, une sorte de bricolage aussi, il y a un côté artisanal, et les protections correspondent aux exigences de l'époque, mais en fait sont complètement désuètes quand on connaît aujourd'hui la réalité du risque radioactif. Donc il ne s'agit pas de critiquer, de voir le manque d'informations et de données scientifiques, mais effectivement, on a une sorte de construction en marchant, on va dire.
Alors vous montrez, c'est d'ailleurs très impressionnant, que parfois les travaux commencent alors que les autorisations ne sont pas encore complètement toutes arrivées, qu'il y a quand même une espèce comme ça de mise devant le fait accompli, les ingénieurs avancent de leur côté. C'est assez surprenant quand on y pense. On a l'impression d'une industrie dangereuse, donc très régulée.
Alors oui, la situation encore une fois est très différente entre les années 50-60, plutôt de production militaire du CEA, où effectivement on a ce bricolage et même un mépris en fait des normes et de toute forme de contrôle préfectoral. Enfin, le site de Marcoule fonctionne comme une entité à part. Dans les années 70, avec EDF, c'est un petit peu différent. Parce que bon, quand pour le choix des sites, il y a quand même le fait que ce soit imposé. Il faut la carte de 1974 qui présente les sites nucléaires est souvent découverte par les maires, qui découvrent en fait que leur site, leur commune a été choisie. Mais c'est après coup. Enfin, moi, les débats que je montre pour le choix des sites, c'est au niveau technique. Et ensuite, les réactions qui peuvent être politiques et qui peuvent parfois réussir à vaincre en fait une implantation qui n'était pas souhaitée. Mais donc on a quand même ce côté imposé.
Donc que je comprenne bien, il n'y a pas d'implication en amont des acteurs locaux, des maires dans le choix des sites.
Non.
Ils sont vraiment mis devant
le
fait accompli et éventuellement ils peuvent se débattre.
Voilà, tout à fait. Les débats que j'étudie sont des débats techniques. Ce sont des débats pour savoir quel est le meilleur site. Est-ce que le site peut accueillir ou non une centrale nucléaire? Est-ce qu'il vaut mieux aussi construire un barrage hydroélectrique ou une centrale? Il y a des gros débats sur ce point dans les années 70, mais par contre, pour le niveau municipal, les maires ne sont pas consultés. Certains découvrent le site.
Et alors moi, j'ai cru vous lire, mais j'ai peut-être mal lu, que parfois les travaux commençaient
sans
que tout soit complètement calé encore.
Alors oui, alors ça, c'est
C'est ça dont je parle.
Voilà, oui,
c'était très bien.
Mais... Oui, c'était pour préciser justement sur cet aspect. Cet aspect-là, c'est que... alors moi, pour présenter mes recherches, enfin, ma thèse, j'ai choisi de présenter dans l'ordre... vraiment la procédure dans l'ordre. Donc je commence par le choix des sites, ensuite les premiers sondages, ensuite je parle des chantiers et ensuite je parle des autorisations. Parce que souvent, ce qu'on constate, c'est que les chantiers commencent en fait avant les autorisations pour gagner du temps. Il s'agit en fait d'un enjeu... alors, il y a un enjeu économique. Ça coûte extrêmement cher en fait de produire, de construire une centrale nucléaire, ça prend énormément de temps. Ça demande une énorme capacité d'endettement pour EDF à cette époque-là, qui arrive quasiment aux limites de ses capacités. Mais c'est aussi, alors que ça c'est aussi quelque chose qui est très souvent mis en avant par les anti-nucléaires, de dénoncer en fait la politique du fait accompli. Le fait que si les travaux ont commencé, de toute façon on ne va pas s'arrêter, et on ne va pas annuler un projet de centrale nucléaire. Et c'est vrai que c'est souvent un enjeu de détruire ou d'attaquer le chantier, ou en tout cas d'essayer de détruire, par exemple, d'empêcher les premiers sondages.
Alors vous avez cité les antinucléaires et on va en parler après une petite pause musicale.
Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon, vinyle, évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle. Tu m'irradieras encore longtemps. Bien après la fin, tu m'irradieras encore longtemps. Au-delà des portes closes, le dimanche à Tchernobyl, j'harangue le soleil, j'harangue les sardines, dans la rougeur des canaux. À la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau, vaisselle. Chaque jour se rit de moi, un de l'or. Tu m'irradieras encore longtemps, bien après la fin. Tu m'irradieras encore longtemps. torches à Tchernobyl. J'empile torchon vinyle. Évangile, sortir en amie, en ciré, sortir du chapeau, comme à l'accoutumée. Tu m'y raviras encore longtemps.
Vous êtes sur Allegre FM à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Louis Fagon. Il est question d'histoire du nucléaire en France.
Alors on écoutait une chanson d'Alain Bachon, je ne sais pas si vous la connaissez, Le dimanche à Tchernobyl, mais qui va nous permettre d'évoquer les dangers du nucléaire et notamment les problèmes environnementaux dans cette vallée du Rhône nucléarisée. Quel est le premier problème environnemental qui s'impose tout de suite?
Alors, qui s'impose tout de suite, ça dépend de quelle époque on parle, c'est-à-dire que dans les années 50, justement, le nucléaire est totalement associé à la bombe. C'est-à-dire qu'on a vraiment une... On parle d'ailleurs d'usine atomique. Le mot nucléaire, en fait, s'impose par la suite pour désigner plutôt le nucléaire civil. Mais on parle d'atomique et d'atome pour les deux usages. Et donc, à cette époque-là, on voit dans, par exemple, les registres d'enquête publique qui sont organisés à partir de la fin des années 50 autour de certains sites, on voit une petite... on voit déjà en fait l'essor d'une crainte sur la santé et sur les populations et surtout sur la contamination des agricoles.
Par radiation,
oui. Et c'est-à-dire que dans ces registres, le principal enjeu, c'est l'expropriation. C'est-à-dire que comme toute industrie qui s'implante notamment dans le monde rural après la guerre, l'enjeu principal, c'est voilà, de protéger les exploitations, de lutter contre l'expropriation, et de garder un droit d'usage, par exemple. Et on a deux attitudes assez intéressantes dans les années 50. On voit, par exemple, dans les archives, que certains ne comprennent pas du tout le côté radioactif des usines, qui n'est pas toujours annoncé au départ. Et par exemple, on a certains agriculteurs qui demandent à pouvoir continuer à venir sur le site pour s'occuper de leurs vignes, plutôt que de les arracher, puisque c'est de la vigne intéressante autour de Marcoule. D'autres, au contraire, par exemple autour de Cadarache, donc qui est situé le long de la Durance. Dans ce cas-là, on voit déjà des craintes au tout début fin des années 50, début des années 60, des craintes pour la santé humaine, pour la contamination radioactive. Mais dans les années 70, ce qui est intéressant, c'est que selon les administrations qui sont consultées, le risque mis en avant n'est pas le même. Et par exemple, dans les années 70, j'ai étudié beaucoup les archives de l'agence de bassin, qui donc est l'ancêtre des agences de l'eau actuelles, qui s'inquiète, elle, de la pollution thermique et de l'accumulation de centrales thermiques le long du fleuve.
Donc ça veut dire que cette question dont on a parlé pendant les canicules existait déjà il y a plusieurs dizaines d'années?
Oui, et c'est déjà un enjeu, en fait, dès la construction. C'est-à-dire que vous avez un problème à la fois environnemental et économique. C'est-à-dire que à la fin des années 60, début des années 70, les tours à aéro-réfrigérantes qu'on voit, qui sont même le symbole aujourd'hui du nucléaire, ne sont en fait qu'une option parmi d'autres pour refroidir les réacteurs. C'est-à-dire que on pompe l'eau du fleuve et au lieu de la relâcher, réchauffer dans le fleuve, en fait, elle s'évapore sous forme de vapeur d'eau. C'est uniquement de la vapeur d'eau. Le problème, c'est que à la fin des années 60, cette technologie est pas encore tout à fait maîtrisée. Il y a beaucoup d'options différentes, en plus il y a différents modèles, mais surtout elle coûte extrêmement cher. Enfin, elle provoque un surcoût, elle coûte cher. Et en fait, pour EDF, l'idée c'est d'arriver à un arbitrage économique, de savoir s'il vaut mieux réduire la puissance des réacteurs de manière temporaire, en perdant un petit peu de puissance, qui est choisie aujourd'hui en partie par pas mal de réacteurs en France, ou alors d'investir dans ces aéro-réfrigérants et d'assumer le surcoût. Donc en fait, c'est tous les débats que j'étudie, c'est justement un des débats aussi de mise en économie de la ressource en fait en eau, de savoir si il est plus rentable en fait d'effectuer tel choix technique ou tel autre choix technique.
Mais les agences qui s'occupent de l'eau, excusez-moi, j'ai oublié le nom de l'agence.
Alors l'agence de bassin.
Agence de bassin, est-ce qu'elle est hostile à la politique nucléaire parce que ça remet en cause son propre usage? Enfin, l'usage qu'elle défend du Rhône. Est-ce qu'il y a des rivalités d'usage sur le Rhône?
Alors pour elle, non, puisqu'en fait, l'agence de bassin, en fait, ce sont des agences qui sont instituées en 1964 par la loi sur l'eau, qui en fait mettent un peu de temps à se mettre en place. Elles apparaissent, sont structurées à la fin des années 60. Et en fait, leur enjeu, c'est la qualité de l'eau et la répartition de la ressource. Le problème, c'est qu'elles sont créées en fait assez tardivement. Et ne sont pas, au départ, intégrées dans les procédures administratives d'autorisation des centrales nucléaires. Et donc, en fait, ce que j'ai vu avec l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, c'est qu'en fait, c'est une manière pour elle aussi de se positionner sur le nucléaire, comme tous les autres services autour d'elle, en fait, qui ont à chaque fois une part dans la procédure. Mais elle ne se prononce pas sur la radioactivité. Parce que, pour ses membres, en fait, c'est très clair. La radioactivité est prise en charge. Elle a ses propres services de contrôle qui sont autonomes au sein des différents ministères, le ministère de l'Industrie, ministère de la Santé. Et en fait, le problème dont elle peut s'emparer pour le discuter, c'est justement cette question de la pollution thermique, qui est beaucoup plus large que le nucléaire aussi. C'est-à-dire que c'est aussi la pollution des centrales, par exemple, au fioul ou au charbon. Et l'idée d'avoir certains craignent une saturation thermique du fleuve au début des années 70.
Et ça n'a pas freiné la construction des centrales, ça aurait pu être un frein.
Alors, ça a freiné certains sites, par exemple, ça a pu justifier en fait, de limiter certains sites. C'est-à-dire que EDF, les services d'EDF, en réaction en fait, à ces critiques, vont développer des modèles mathématiques pour répondre à ces questions en anticipant en fait un modèle du Rhône. Il y a un modèle du Rhône qui est créé, qui anticipe, alors si on a tel site en circuit ouvert ou tel site en circuit fermé, si on a tant de réacteurs, quel est le réchauffement? Et le réchauffement, est-ce que le réchauffement va durer une dizaine de kilomètres, une trentaine de kilomètres et va atteindre la prochaine centrale? Et ça permet, l'idée c'est d'essayer de répartir les centrales pour éviter cet effet de cumul.
Aligre FM 93.1.
Est-ce que dans ces modèles du réchauffement du Rhône induit par les centrales, il y a une idée claire sur les impacts écologiques de ce réchauffement sur les écosystèmes du fleuve?
Alors, cette fois-ci, il y a deux discours un peu opposés, c'est-à-dire qu'au niveau du modèle, oui, c'est-à-dire que le modèle anticipe très bien, il y a énormément d'études, il y a même une surcharge d'études qui est dénoncée, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des dossiers de 300-400 pages qui font la liste en latin de toutes les espèces qui vivent dans le fleuve et qui seraient menacées, et voilà le delta dans lequel on peut à peu près réchauffer le Rhône sans risque de détruire la faune et la flore. Mais par contre, ce qui est critiqué, notamment par les administrations, il y a un service qui est très important pour le Rhône, c'est le service de la navigation. C'est-à-dire que c'est un service des ponts et chaussées qui est en charge de la police des eaux. Et donc, dès que quelqu'un pompe de l'eau dans le Rhône, ils sont consultés pour donner leur avis. Et notamment, voir s'il y a un risque pour la navigation, etc. Et en fait, ce service va se faire de plus en plus critique au cours des années 70 parce que les dossiers individuels d'EDF ne se citent pas les uns les autres. Alors que EDF, de l'autre côté, a développé un modèle mathématique. Donc en fait, ils voient très bien, ils ont accès aux deux modèles et savent très bien qu'il y a un paradoxe, en fait.
Donc il n'y a pas de modèle global qui inclut l'impact des...
Alors oui, il y a un modèle global, mais les questions, en fait, portent plutôt sur la vie de certains poissons. Et on a aussi certains sites qui sont limités pour ces raisons, notamment le site de Saint-Alban, qui est construit aux limites en fait, de ce qui est possible d'après les modélisations de l'époque.
Mais est-ce que c'est une stratégie de ne pas inclure chaque centrale dans un modèle global pour diminuer un peu l'impact d'une certaine façon, en regardant que l'impact local et pas l'impact cumulé?
Alors oui, c'est la critique qui est faite notamment par les services de l'environnement qui se développent à partir du milieu des années 70. Et c'est aussi, je pense que c'est aussi un problème technique concret au sein d'EDF, c'est-à-dire que les services qui sont chargés de faire ces dossiers sont assez peu nombreux, sont considérés comme étant un peu annexes, c'est-à-dire que l'environnement c'est temporaire, c'est une nécessité juridique, mais une fois que les études d'impact sont faites, c'est bon, on peut arrêter. Et donc, il y a aussi un manque de moyens. Donc, on voit d'ailleurs, parfois, c'est surtout par manque de temps, je pense, on réutilise des données d'une autre centrale pour justifier une implantation d'une centrale qui est 50 km au sud. Sauf que la routine, c'est considéré comme une routine administrative, mais pour les services régionaux et départementaux, ça ne l'est pas. Et on sent un certain agacement à la fin, même au début des années 80, quand ils sont obligés de répéter les mêmes choses, les mêmes critiques. Les dossiers d'enquête publique ne se citent pas les uns les autres. Parfois même, certains réacteurs implantés sur un nouveau site, parce qu'un site peut avoir plusieurs réacteurs, la centrale du Bugey en avait 5, parfois les autres réacteurs ne sont pas cités. C'est-à-dire que c'est l'idée d'isoler en fait le réacteur dans le fleuve.
Alors justement, ce que vous nous montrez à travers tout ça, c'est qu'il y a quand même une forme d'exceptionnalité du nucléaire dans l'État français, qui a une sorte de droit à part ou de gestion à part, qui permet d'échapper à une partie du contrôle de l'administration. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, et alors c'est quelque chose, je pense que c'est peut-être ma conclusion de thèse, ce que j'ai vraiment construit, vu au fur et à mesure de ma recherche. Je pense qu'en fait, l'exception nucléaire n'était pas donnée en fait, dans les années 50, mais qu'elle est plutôt construite volontairement pour échapper à, dès les années 50, en fait, à toute forme de contrôle. Et c'est le fait du CEA. Le CEA, c'est à cette époque-là, en fait, une entité vraiment à part, qui dépend donc du président du Conseil, directement, et ensuite va ensuite être attaché par la suite à certains ministères, mais au départ, c'est vraiment une entité à part, que personne ne comprend très bien, et qui va jouer un peu avec les préfectures. C'est-à-dire qu'on voit des préfectures, par exemple, qui découvrent la visite de ministres sur les sites du CEA, alors qu'ils sont en charge de cette question. On voit également la volonté de ne pas avoir de contrôle, par exemple, sur les rejets dans les années 50. L'idée, les autorités départementales, par exemple, proposent d'effectuer des prélèvements pour surveiller la radioactivité, puisque c'est une activité industrielle. Et en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas une industrie comme les autres. Et ce que je vois, donc, c'est que ça va très loin, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la volonté d'avoir un service de renseignement à part dans les années 50 qui soit indépendant.
Justement, à ce propos, je vais vous faire entendre un petit son pour voir la partie humaine de cette exceptionnalité.
Arrivés par milliers dans la matinée de samedi, les manifestants se sont regroupés dans les villages bordant le périmètre interdit. Déjà, le manque de coordination et la présence d'éléments venus avec la ferme intention de se battre laissaient présager le pire. Plusieurs dizaines de manifestants appartenant au doyau dur des contestataires se heurtent aux gendarmes mobiles. Jets de pierres et de boulons d'un côté, tirs de grenades lacrymogènes ou offensives de l'autre, c'est un scénario qui se reproduira à plusieurs reprises dans l'après-midi, et à 21h hier soir, on se battait encore aux abords de Morestel. À aucun moment, Super Phénix n'a été menacé. L'objectif de René Janin, le préfet de l'Isère, était atteint, mais le bilan est lourd. Un mort, 5 blessés graves et une centaine de blessés légers.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et on écoute aujourd'hui Louis Fagon pour sa thèse sur la nucléarisation du Rhône. Alors Louis Fagon, vous avez reconnu ce son ? Vous savez ce que c'est ? Vous pouvez nous en dire quelque chose ?
Alors, il s'agit des manifestations de juillet 1977 à Crémalville. Alors, on change de contexte, c'est dans les années 70. C'est considéré comme c'est même la plus grande manifestation antinucléaire en France, qui a lieu donc en juillet. Alors, je vais peut-être juste rappeler ce que c'est. Donc, c'est un surgénérateur, c'est un réacteur un peu à part.
Super Phénix,
tout à fait. Alors, je vais quand même rapidement rappeler tout ce système. En fait, le principe donc des années 50, dans les années 50, on veut produire du plutonium. Et on peut l'utiliser dans ce type de surgénérateur. L'idée, donc, c'est que c'est un réacteur qui fonctionne avec un noyau de plutonium et encerclée en fait, d'uranium appauvri. Et théoriquement, l'idée donc, est de surgénérer du plutonium, puisque en rentrant en réaction, le plutonium va produire de plus en plus de plutonium. Et on récupère la chaleur, puisque c'est comme ça que fonctionne un réacteur, c'est une grosse bouilloire. On récupère la chaleur avec, dans ce modèle de réacteur, du sodium sous forme liquide, et on produit l'électricité. Alors c'est un réacteur qui est extrêmement puissant, beaucoup plus que les réacteurs de l'époque, et qui alors est très décrié, puisque c'est en fait l'idée que vous avez un cœur de plutonium de plusieurs... c'est un énorme cœur de plutonium, vous avez le risque d'explosion qui est mis en avant, ce qui ne peut pas avoir lieu dans un réacteur classique. Et surtout, le sodium sous forme liquide a la capacité chimique en fait, de prendre feu au contact de l'oxygène et d'exploser au contact de l'eau.
Ce qui donc un réacteur particulièrement dangereux, potentiellement.
Alors, potentiellement dangereux, et surtout, ce qui est décrié, c'est aussi que en fait, ce réacteur a déjà été construit en fait, au niveau plus micro, on va dire, des réacteurs de recherche. Un premier réacteur qui s'appelait Phoenix, qui était beaucoup plus petit. Et en fait, Super Phoenix, c'est l'idée en fait, de produire beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, et aussi de monter tout à coup en puissance de manière très très importante, sans passer par un palier intermédiaire, ce qui est normalement la politique de sécurité du nucléaire, d'évoluer de manière progressive, pour à chaque fois maîtriser la sûreté. Et derrière, l'idée, c'est aussi d'en vendre, en fait. C'est qu'on pourra vendre par la suite des surgénérateurs à l'étranger. C'est un produit d'exportation.
D'où peut-être la réaction, parce que dans cette manifestation, il y a donc un mort,
oui.
Qu'on oublie parfois.
Vital
Michel. Manifestation très violente. Et j'aimerais que vous nous en parliez plus, notamment le son qu'on a entendu laisse supposer que ce sont des casseurs venus d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a une opposition locale? Comment est-ce qu'elle est gérée par l'État? Est-ce qu'il y a une exceptionnalité là aussi dans la gestion de l'opposition au nucléaire?
Alors oui, tout à fait. Le Super Phoenix, en fait, cristallise aussi les critiques, puisque l'idée donc, de tout le programme précédent, c'était de produire du plutonium comme déchet, mais que ce n'était pas grave, parce qu'en fait, on pourrait l'utiliser dans ces surgénérateurs. Donc en fait, c'est un peu le maillon final qui est construit comme l'idée d'un programme cohérent. En fait, le programme est cohérent grâce à Super Phoenix. Donc s'attaquer à Super Phoenix pour les antinucléaires, c'est s'attaquer à la fois à un modèle, un réacteur qui est considéré comme très dangereux, mais aussi comme un symbole en fait, de ce qu'ils appellent la société du plutonium. En plus, effectivement, le site est implanté en Isère, juste à la frontière en face avec l'Ain, dans une zone qui est assez désertique, en tout cas considérée et construite comme telle, même si elle est habitée, bien sûr. Mais elle est quand même assez proche de Lyon et surtout de Genève. Et on voit une très forte mobilisation antinucléaire de la part de la Suisse, avec des militants qui sont justement surveillés à passer entre la France et la Suisse à ce moment-là. Et on a aussi une très forte présence allemande et un petit peu italienne, puisqu'en fait le réacteur est aussi un projet européen. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de Super Phoenix encore aujourd'hui, ça revient assez souvent dans les débats, puisqu'il a été fermé dans la fin des années 90 et... Beaucoup de militants estiment que c'était une erreur de le fermer, qu'il aurait fallu le garder. Mais en fait, ce n'est pas une réussite française ou un réacteur français, c'est un réacteur international.
Ce qui explique peut-être qu'il y ait, je crois, des dizaines de milliers de personnes qui sont venues manifester.
Oui, tout à fait. On a entre 50 et 100 000 personnes qui viennent. Et la présence étrangère est justement utilisée par les autorités pour estimer que c'est une manifestation étrangère avec des propos... ouvertement germanophobe du préfet de l'époque, qui estime que les Allemands ont déjà été vidés de Morestel une fois, on pourra les vider une deuxième fois devant les journalistes et notamment la presse suisse qui n'en croit pas ses oreilles dans la presse que j'ai pu lire. Donc effectivement, on a une manifestation très importante avec l'idée d'occuper, ou en tout cas de pouvoir occuper le chantier. Mais la manifestation n'arrive pas à freiner le chantier. Effectivement, ça se termine donc par la mort d'un manifestant, Vital Michalon. Et par la suite, c'est un coup d'arrêt. C'est un peu l'apogée, ou en tout cas le début de la fin, pour l'opposition massive aux centrales nucléaires en France. Et le site, par contre, fera encore l'objet de beaucoup de tensions, puisqu'il est visé aussi par un tir de bazooka. Par la suite, quelques années plus tard, par un militant suisse... qui visait le chantier de nuit pour essayer de ralentir la construction.
Et le fait qu'il y ait un mort, est-ce que ça s'explique par une gestion spécifique de ces mouvements qui serait peut-être moins violente dans d'autres domaines ou pas particulièrement? Ou c'est une gestion policière classique?
Alors, pour cette question-là, c'est un petit peu compliqué. C'est aussi lié à la politique de répression générale, je pense, de répression de la manifestation en général à cette époque. C'est aussi une période de tension, notamment en lien avec le Larzac, par exemple, à cette époque-là, qui est aussi un haut lieu de la contestation. Et pour Vital Michalon, en plus, c'est un militant On n'est pas du tout dans le militant qui est présenté par les autorités ou par la radio comme un militant violent. Au contraire, c'est un militant pacifiste, professeur de lycée. Et donc, on a cette mort, en fait, est aussi marque un tournant dans les mouvements. Et on n'a plus vraiment de grandes manifestations aussi importantes en France contre le nucléaire, à part en Bretagne et par la suite contre des sites, mais pas dans des proportions aussi importantes.
Donc vous voulez dire que peut-être la forme de la répression a pu jouer dans la difficulté à constituer un mouvement antinucléaire puissant, comme on peut le voir par exemple en Allemagne ?
Alors oui, après pour cette question du mouvement, c'est aussi que le mouvement en fait est extrêmement divers et que même lors de la manifestation de 1977, en fait, les parties prenantes ne sont pas du tout d'accord sur la marche à suivre et qu'une partie en fait, de la contestation s'estimer qu'en fait on ne pourra pas arrêter Superphénix, ou alors qu'il faudra passer à d'autres formes de contestation, notamment juridiques. Et la grande opposition ensuite au nucléaire va passer plutôt par des recours et ensuite par une forme de contestation aussi au niveau, par exemple, des commissions locales d'information pour essayer d'avoir un contrôle accru sur Superphénix.
D'accord, merci. Alors écoutez, tout ça est absolument passionnant et j'aimerais, dans les quelques minutes qui nous restent, que vous parliez de quelque chose qui est très intéressant, c'est les archives du nucléaire sont-elles accessibles ? Avez-vous dû trouver des tours de passe-passe pour y avoir accès ? Comment on fait ?
Alors oui, c'était la grande question au départ. Je me rappelle encore quand j'ai présenté mon projet de thèse, où beaucoup m'ont dit que ça allait être impossible de trouver des données sur le nucléaire, parce qu'en fait, on a construit aussi cette idée d'un nucléaire inaccessible. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est que le nucléaire en fait, est beaucoup plus ancien qu'on le pense. C'est-à-dire que c'est une énergie des années 50-60, en fait, déjà, et avec un développement industriel de cette époque. Et donc, en fait, les données sont disponibles, mais elles ne sont pas disponibles au niveau national. C'est-à-dire qu'elles sont plus difficiles d'accès.
Enfin, elles sont même inaccessibles aux archives nationales.
Alors, aux archives nationales, non, il y a des choses. Mais elles sont... certains dossiers sont entièrement bloqués, mais on a accès à certaines choses. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, il suffit d'avoir un petit peu de notion de droit public pour comprendre qu'en fait... Une décision nationale est ensuite appliquée au niveau départemental. Et donc, dans mon pari, c'était que dans toutes les préfectures, il devait y avoir des traces de ces implantations et de ces dossiers. Et donc, dès le début de ma thèse, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, des dossiers qu'on me refusait aux archives nationales étaient tout à fait disponibles en fait, dans les archives départementales qui sont extrêmement riches. C'est-à-dire que j'ai choisi en fait, de parcourir le Rhône en allant de chaque côté de la rive. Ce qui est aussi un avantage puisque des dossiers qui sont sous embargo en Isère ne le sont pas dans l'Ain, par exemple. Donc ça peut être aussi un argument en faveur de cet usage des archives départementales. Et j'ai identifié beaucoup trop d'archives pour une thèse. En fait, il y a quasiment un millier de cotes donc d'identification de cartons. Et j'en ai mobilisé à peu près 300 pour ma thèse, avec des documents nationaux, bien sûr, puisque voilà, il faut bien envoyer les directives au préfet, il faut aussi un compte-rendu sur la construction, etc. Donc tous les dossiers EDF, en fait, aussi sont disponibles dans ces archives. Et seolement un tiers, en fait, nécessite dérogation.
Donc en fait, vous avez fait ce tour de passe-passe qui, au lieu d'aller directement dans les archives centrales, dont une partie était difficile d'accès, vous avez choisi d'aller localement. Et comme on est une bureaucratie bien faite, vous aviez des dossiers qui étaient présents localement, qui correspondaient aux dossiers nationaux, mais qui cette fois était accessible.
Tout à fait. Et j'ai aussi eu la chance, je pense, d'étudier le Rhône, puisque une collègue allemande a fait la même chose sur le Rhin, et les archives sont moins riches. Et j'ai pu aussi aller voir sur la Loire, et par exemple, les services n'en sont pas aussi impliqués dans cette question au niveau de la Loire.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Louis Fagon pour toutes ces explications. On espère que votre thèse sera publiée et accessible à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Jean-Marc, on reste dans le nucléaire avec la parution d'un livre.
Oui, oui, absolument. Livre de Ange Potin, Le nucléaire imaginé, le rêve du capitalisme sans la Terre, donc qui vient de sortir aux éditions de La Découverte. Alors, Ange Potin est chercheur en philosophie des sciences et des techniques à l'Université de Vienne, et le livre est justement tiré de sa thèse qu'il a soutenue assez récemment. Alors, il s'est intéressé à l'imaginaire, justement, autour de l'énergie nucléaire, imaginaire né dans les années 50, comme vous l'avez dit. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, peut-être on écoute un extrait d'un documentaire qui date de 1956.
Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge, né de la découverte et de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde, l'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome. Non contrôlée, cette puissante source d'énergie est aussi la plus destructive. Mais en totale coopération internationale, toutes les nations souhaitent justement la contrôler afin de fournir de l'énergie pour le bien de l'homme, pour la prospérité du monde futur, un monde qui ne connaîtrait plus la famine, les maladies. L'homme a toujours espéré et vécu avec la perspective d'un lendemain qui serait meilleur qu'aujourd'hui. Pour cela, il a recherché des sources d'énergie, trouvé le feu et les carburants, et enfin la force et la puissance contenues dans l'atome, cette énergie atomique qui promet de meilleurs lendemains aux peuples du monde.
Bon, il y a une grandiloquence, hein. On est en 1956, imaginaire d'une énergie qui permettrait l'indépendance énergétique, bien sûr, une énergie qui permettrait une croissance économique infinie, une énergie quasi magique, hein, qui se cultive en milieu clos grâce à des technologies avancées, avec une concentration énergétique immense, hein, donc un gramme de plutonium équivaudrait à une tonne de pétrole.
Oui, enfin, c'est complètement désuet, cet imaginaire, non ?
Alors, le ton est désuet, mais l'imaginaire, pas tant que ça. En tout cas, c'est ce que dit Ange Potin, hein, c'est que cet imaginaire, il reprend du poil de la bête à la faveur du réchauffement climatique, hein, et des faibles émissions carbone du nucléaire. Mais le gros problème que pointe Ange Potin, c'est l'occultation dans cet imaginaire de l'empreinte terrestre du nucléaire. Empreinte terrestre du nucléaire, on pense bien sûr au problème de déchets, de leur retraitement, avec quand même 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires en France. Mais c'est pas tout. Ange Potin pointe aussi l'empreinte des mines d'uranium au Niger, au Canada, en Australie, avec leur lot d'écosystèmes ravagés pour permettre l'exploitation de ces mines. L'emprise aussi bien terrestre des centrales nucléaires elles-mêmes, des installations elles-mêmes, dont certaines sont vieillissantes, qu'il va bien falloir démanteler. Et enfin, l'empreinte terrestre lors des accidents, qui certes sont rares, mais qui condamnent durablement des centaines de kilomètres carrés. Autour de Tchernobyl, c'est 2200 kilomètres carrés qui sont inaccessibles. Bref, contrairement à l'imaginaire nucléaire, on a bien affaire à une technologie certes à faible émission carbone, mais à forte empreinte terrestre.
Mais est-ce que cet imaginaire qui occulte l'empreinte terrestre est vraiment propre au nucléaire ?
Bah non, ça fait fortement penser à d'autres imaginaires rattachés à des technologies, à commencer évidemment par l'imaginaire rattaché au numérique. Peut-être faites l'expérience, hein, fermez les yeux et pensez à Internet, au numérique. Quelle image vous vient ? Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, je vois des données dans le cloud, dans les nuages, des zéros et des uns qui flottent dans les airs, des connexions par satellite. Alors, on est exactement dans ce même imaginaire déterrestré, comme dit Ange Potin. La réalité, bien sûr, elle est tout autre. Internet et le numérique s'accompagnent d'infrastructures lourdes et qui sont bien réelles, des réseaux de câbles qui sillonnent les mers, des data centers qui consomment des quantités d'énergie croissante, et ça ne va pas s'arranger avec les intelligences artificielles génératives. Des mines aussi, pour extraire les métaux rares essentiels à la construction de nos chers joujoux numériques, hein, à commencer par le cobalt. Et bien sûr, des montagnes de déchets numériques. Ah bon, bref, on n'a pas fini de se débattre avec ces imaginaires déterrestrés des technologies, pour utiliser le terme utilisé par Ange Potin. Je vous conseille très très vivement donc la lecture de son livre « Le nucléaire imaginé, le rêve du capitalisme sans la Terre » aux éditions de La Découverte. Louis Fagon, peut-être un commentaire sur cet imaginaire déterrestré du nucléaire ?
Oui, c'est intéressant. Effectivement, je connais bien les travaux d'Ange Potin qui sont passionnants. Pour cet imaginaire, c'est aussi intéressant de voir à quel point il s'inscrit dans une longue histoire de cet imaginaire technique. La fée électricité, par exemple, était quand même déjà au cœur de, la, de l'imaginaire du 19e siècle. Pour le nucléaire, effectivement, on a toujours ce... Quand, moi, dans mon travail, j'ai pu voir l'écart en fait, entre l'imaginaire de promesses d'énergie illimitée, finalement, et la réalité d'une industrie, en fait, qui est une industrie très concrète, très, qui est avec ses lieux, ses travailleurs, ses besoins en eau, en espace.
Ces kilomètres cubes de béton.
Voilà, et c'est vraiment ce côté matériel qui est très important, en fait, à garder en tête pour toute forme d'énergie, toute forme d'usage technologique aussi.
Merci beaucoup encore, Louis Fagon, d'avoir été avec nous ce matin. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Enrico Mestre-Giovanni et Luca Penture à la réalisation. Ce matin, vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur le site web de Recherche en cours. Et si vous nous écoutez en direct, eh bien, place à Gilles Bourgarel et Brasil Alto Astral. À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.